Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu. 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler cinéma avec les sorties de films du mercredi. On va vous aider à choisir. Et une pièce de théâtre surprenante. Vous pouvez évidemment nous suivre en vidéo sur le site europe1.fr et voir mes petits camarades qui sont un peu dissipés. Notre
non,
info média, on va parler musique et bavard en plus. On va parler musique avec les chiffres du SNEP qui viennent de tomber. Ce sont les chiffres officiels de la musique, de la manière dont elle est consommée en France. Un quart des Français écoutent désormais de la musique en streaming, c'est-à-dire directement sur le portable ou sur l'ordinateur, que ce soit en gratuit ou en payant. Et si vous faites partie des 75% qui ne s'y sont pas encore mis, eh bien cette émission est encore plus pour vous. Qui l'aurait cru ? En 91, il avait de longs cheveux noirs corbeaux et des lunettes zébrées. Non, c'est pas Cyril Lacarrière, c'est Mac Lesguy qui lançait E égale M6, l'émission scientifique de M6. C'était il y a 29 ans. Et bien, dimanche soir, ils vont fêter la 1000e et on fêtera avec lui cette 1000e en avant-première dans ce studio. Et puis, le comédien Lucien Jean-Baptiste sera avec nous. Il a réalisé et cartonné avec les films La Première Étoile. Et puis, Il a déjà tes yeux, dans lequel un couple de noirs adoptait un petit bébé blanc. Ça a tellement bien marché que c'est devenu une série sur France 2 qui passe en ce moment. Nous sommes ensemble en ce moment jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière qui s'étire.
Bonjour Philippe Vandel.
Comme chaque matin, je raconte tout ce qui se passe pour les gens qui ne sont pas encore en vidéo sur europe1.fr. On démarre votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ?
Ce matin, Philippe, je vous parle de télé locale qui se verrait bien prendre du galon, du retour de l'enfant terrible de M6, des débats des municipales à Paris, des Américains qui croient de moins en moins à Facebook et Google et de Bob, le nouveau patron de Disney. Et non, ce n'est pas Bob l'éponge.
Au cas où il y a des gens qui aient pensé
on
que...
On sait jamais.
Ouais,
on sait.
Cyril, on démarre, c'est la tradition avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ?
Hier, il y avait Capitaine Marlowe. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont regardé ?
Capitaine Marlowe.
Bravo ! 6 950 000 Français ont regardé France 3.
Capitaine Marlowe, inédit ou rediff ?
Inédit. Ça représente 30% de part de marché. Énorme carton, hein, donc pour la 3, comme d'habitude, as usual, comme on dit. En deuxième position, M6 est le premier numéro de Pékin Express. Suivi, c'est pas un lancement très réussi pour M6, 2 550 000 Français. C'est le plus faible démarrage hein, pour la 6 avec son programme d'aventure. En troisième position, la série de TF1 Magnum qui continue de baisser, 2 420 000 téléspectateurs. Ça, c'est une série qui a vraiment du mal à prendre. Hein, pour la une.
Mais je vais relativiser, quand on est devant TF1, c'est un bon lancement et personne ne peut surpasser pour l'instant Capitaine Marlowe.
Et quand même un mot à vous dire concernant l'émission dont vous avez parlé hier, l'émission de McFly et Carlito.
Ah oui.
Il y avait 724 000 téléspectateurs devant TMC. C'est donc un lancement plutôt réussi et une première plutôt réussie puisque Xavier Gandon, le numéro 2 des programmes de TF1 disait qu'entre 500 000 et 600 000, ils seraient plutôt contents.
Voilà. Et eux m'avaient juré qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient signé un contrat pour une deuxième. Il y aura certainement une deuxième. Cyril, on va démarrer maintenant le journal des médias avec du mouvement à venir dans les chaînes de télévision. On a déjà parlé ici des chaînes nationales qui investissent en région. Et vous, ce matin, vous nous parlez de chaînes locales qui veulent devenir nationales. Attention, le mal de crâne.
Ouais. Alors, je vais tenter de vous rendre tout ça plus clair. Hier, Philippe, vous receviez Thierry Tuilier, le patron de l'info du groupe TF1, qui ne cachait pas son ambition de récupérer un des deux canaux de la TNT, qui seront libérés avec la disparition de France 4 et de France O à l'été prochain. Eh bien, voici un autre prétendant. Il s'agit du syndicat local.tv. Qu'est-ce que c'est local.tv ? Eh bien, c'est un regroupement de 48 chaînes locales et régionales et qui revendique de produire 34 000 heures de programmes par an. Alors, pourquoi ces chaînes se verraient bien décrocher une fréquence nationale ? La réponse de Fabrice Schlosser, le coprésident de local.tv. Il est au micro de Louise Bernard.
L'idée était de créer une chaîne nationale TNT consacrée au territoire qui puisse vraiment présenter l'ensemble des richesses de nos régions sur toutes les thématiques, que ce soit le sport, l'associatif, l'économie. Quelque part, cette thématique des territoires est un peu sous-représentée au niveau national. Nous, on vient d'un syndicat où il y a 250 journalistes, où il y a à peu près 300 à 400 vidéos par jour qui sont présentées à l'antenne, et il y a des pépites. Et ces pépites, on veut les présenter à l'ensemble des Français dans le cadre d'une chaîne généraliste qui va parler de toutes les thématiques et à tous les Français.
Et donc, comme je vous le disais, avec la disparition annoncée de France 4 et France O, ce collectif de chaînes locales se dit que c'est le moment ou jamais de tenter sa chance pour jouer dans la cour des grands, des grandes chaînes d'information en continu. On écoute à nouveau Fabrice Schlosser.
Quelque part, on a une chance unique aujourd'hui de créer une chaîne nationale consacrée au territoire qui, dans sa manière d'être construite, peut faire en effet consensus et peut rassembler l'ensemble des forces éditoriales des territoires, que ce soit la télévision locale ou la presse quotidienne régionale. Quelque part, c'est aussi un enjeu important pour le pluralisme de l'information. On sait que le monde de la presse, en ce moment, est un peu bousculé dans ses fondamentaux, que le monde de la presse d'aujourd'hui ne sera pas celui d'il y a 5 ans, et donc il faut le fortifier, il faut le consolider, et créer une chaîne nationale consacrée au territoire, avec l'ensemble des acteurs de la presse locale, peut être un élément important de cette consolidation, en tout cas de cette structuration du monde de la presse pour la décennie à venir.
Alors, ces 48 chaînes parviendront-elles à chipper une place à LCI ou à France Info, ou est-ce qu'elles pourraient intégrer un bloc info élargi? Le CSA va avoir, c'est sûr, du pain sur la planche au cours des prochains mois.
Cyril, on en sait plus sur le retour de Michael Youn sur M6.
Il avait quitté la 6 avec le Morning Live, il y revient avec le Morning Night. Le comédien et réalisateur fait donc son retour sur M6 20 ans après avoir tourné la page télévision. Michael Youn revient pour deux soirées spéciales et il ne revient pas seul. Il est accompagné de ses deux anciens acolytes, Vincent Desagna et Benjamin Morgan, auxquels se joignent deux nouveaux copains, comme les présente Youn, Charlotte Gabry et Tom Villa.
Ah oui.
La première de ces deux soirées est prévue le jeudi 19 mars. Et à en croire Michael Youn, nous aurons droit à de la rigolade avec des sketchs, des chansons, des sketchs en chansons, des défis et du mégaphone, bien sûr.
Ah oui.
Une référence à une séquence culte de son historique Morning Live. Ce Morning Night sera aussi l'occasion d'un jeu avec les invités de l'émission, avec à la clé un cadeau étonnant, 10 minutes de carte blanche totale sur l'antenne de M6 diffusée juste après l'émission.
Et puis Cyril, on parlait ici même du débat des municipales à Paris hier matin et les choses bougent déjà.
En effet, comme on l'apprend sur le site de l'Opinion, un second débat d'avant premier tour devrait bien avoir lieu, cette fois sur France 3 et les antennes de Radio France, et pas le mercredi 11 mars, comme vous l'avez évoqué.
Et oui, PSG Dortmund.
PSG Dortmund, voilà, c'est vraiment pas le bon soir pour convoquer des candidats à la mairie de Paris. Mais ce serait plutôt le mardi 10 mars. Le quotidien nous apprend que 6 des 7 principaux candidats ont donné leur feu vert ou sont sur le point de le faire, dont la maire sortante Anne Hidalgo. Reste à convaincre Rachida Dati, dont la position a évolué au fil des jours. D'abord résolue à ne faire aucun débat, puis à en faire un, mais un seul. La candidate Les Républicains se joindra-t-elle aux autres têtes de liste? Ce nouveau débat est un sauvetage pour le service public qui avait jusqu'ici été mis de côté par les prétendants à la mairie de Paris. Et si cela va obliger France 3 à revoir sa programmation, le jeu en vaut certainement la chandelle.
Et ça va ravir TF1 et M6, puisque le mardi, c'est traditionnellement le jour de Capitaine Marlowe. Et donc, il va passer à la trappe. Aux États-Unis, Facebook, Google et Twitter inspirent de moins en moins confiance.
Et au niveau où nous en sommes, Philippe, nous pouvons même carrément parler de défiance. Une étude révèle que 3/4 des Américains disent avoir faiblement confiance, voire pas confiance du tout, en Facebook, Google et Twitter, pour veiller à ce que leur plateforme ne soit pas utilisée à mauvais escient lors de la campagne présidentielle qui est déjà bien lancée, hein, aux États-Unis. Et le pire, c'est que plus les mois passent, plus la situation se dégrade. Avant les élections de mi-mandat de 2018, c'était 2/3 des Américains qui faisaient part de leur méfiance vis-à-vis des géants de la tech, contre donc aujourd'hui 3/4. Paradoxe de la situation actuelle et probablement de notre époque, parmi toutes ces personnes qui font part de leur manque de confiance envers Facebook, Google et Twitter, combien utilisent quotidiennement ces mêmes services?
Petite question, juste cette défiance, c'est juste vis-à-vis de l'élection et de la campagne présidentielle ou globalement?
Oui, c'est bien en lien avec la campagne américaine, de peur que les plateformes soient mal utilisées et qu'il y ait des ingérences comme on avait pu en voir en 2016.
Avec l'affaire des...
La Russie.
Voilà, exactement. Et le nom dont je ne me souviens plus. Cambridge Analytica.
Ouais.
Pour terminer ce journal, Cyril, l'annonce d'un nouveau patron chez Disney.
Il y avait un Bob Iger à la tête de Disney. C'est désormais un autre Bob Chapek, qui prend les rênes du géant du divertissement. Et quand je dis géant, je pèse mes mots. À Wall Street, Disney pèse plus de 230 milliards de dollars. Bob Chapek était actuellement le patron du département parc, expérience et produits de Disney. Il devient donc maintenant le big boss de l'univers Mickey, au moment même où le groupe a engagé une transformation de son modèle, avec notamment le lancement de Disney+. Disney+, qui arrivera en France le 24 mars. Quant à Bob Chapek, il prend ses fonctions, lui, ce matin au boulot.
Allez. De circonstance, et à noter qu'hier après-midi, Maxime Saada, le grand patron de Canal+, a tweeté ces quelques mots. Disney+, dans les offres Canal+, annonce imminente, hashtag joie imminente.
Oui, c'est amusant ce tweet, parce que la veille même de ce tweet, donc c'était avant-hier,
ouais,
Canal+, avait commencé à envoyer des mails à ses abonnés pour les prévenir que Disney+, le nouveau service de VOD, de SVOD, serait intégré gratuitement aux offres de certains abonnés. Donc vous voyez, tout ça se mélange un peu dans la communication.
Maxime Saada, si tu nous écoutes, voilà.
On a besoin d'éclaircissement.
Voilà, exactement. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias et avec des éclaircissements sur Canal+.
Qui sait ?
Musique à suivre dans l'infomédia du jour avec les chiffres du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique qui vient de tomber. Un quart des Français écoutent désormais de la musique en streaming. On en parle avec le directeur du département musique chez Spotify, Antoine Monin, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est Philippe de l'Info Média du jour.
Plus de 15 millions de personnes streament en France, comprenez, écoutent de la musique sur Spotify, Deezer ou Apple Music. Le streaming, c'est quand vous écoutez de la musique sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone. Ce sont les chiffres du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui ont été publiés hier. Les utilisateurs écoutent les 50 millions de titres disponibles légalement, des podcasts ou alors de la musique d'ambiance, là aussi, toutes légalement. Le streaming par abonnement est devenu d'ailleurs la première source de revenus du marché de la musique devant la vente de CD. Pour en parler, nous sommes avec Antoine Monin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur marketing artiste et label de Spotify France. Vous étiez déjà venu dans Culture Média pour nous parler de votre association avec Brut pour produire des podcasts. C'était le 15 janvier. Comment ça marche les podcasts avec Brut ?
Super, on est très contents.
J'imaginais pas autre chose, mais comment ça marche ?
Ça marche très très bien, que ce soit Brut ou Le Nuage, qui est une fiction qu'on a lancée il n'y a pas longtemps, ou L'Employé, ou d'autres. On avait parlé de Charles Pépin aussi, qui était là. Voilà, on est très très content du développement et d'écoute des différents types de podcasts qu'on a pu lancer sur Spotify.
Et vous allez continuer, évidemment.
Bien sûr.
Justement, on va parler de diversification. Spotify est un groupe suédois qui a été créé il y a 14 ans. Aujourd'hui, numéro 1 mondial du streaming. Combien d'utilisateurs dans le monde ?
271 millions d'utilisateurs dans le monde, avec une forte croissance annuelle et une forte proportion qui est de 121 millions de mémoire d'utilisateurs payants.
D'accord. Ça, c'est pour les abonnés au niveau mondial. Mais je ne vais pas vous poser la question sur la France, car je sais que vous ne voulez pas donner les chiffres sur la France. Je voulais savoir, c'est pour quelle raison vous ne donnez pas ces chiffres ? Parce que c'est interdit ou parce que c'est dans votre stratégie ?
Non, c'est parce qu'on est une société cotée en bourse. Et donc, la communication des chiffres, pays par pays, territoire par territoire, est assez sensible. Donc, on laisse nos équipes qui travaillent sur la bourse s'en occuper.
Alors, des chiffres, on en a quand même grâce au SNEP, qui a publié hier les chiffres du marché de la musique enregistrée en 2019. Et ils sont très bon pour le streaming, je l'ai dit. Pour la première fois cette année, le nombre d'abonnements a franchi le cap des 10% de la population française. Est-ce qu'on a un portrait robot du streamer ? Qui sont les gens qui écoutent en streaming ?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on constate vraiment déjà, on se réjouit de la croissance du marché, comme vous avez dit. C'est la quatrième année de croissance consécutive pour le marché de la musique en France et c'est quand même une bonne nouvelle. Le streaming maintenant représente 59% de la valeur du marché de la musique en France. Et ce qui est intéressant de voir justement, c'est la démocratisation et l'évolution du streaming. Donc le portrait robot aujourd'hui, il commence à s'élargir, il commence à varier. Et on est plus, c'est plus seulement les jeunes qui streament la musique, mais on voit que toutes les tranches d'âge et aussi bien au niveau âge, démographie, géographie, ça s'élargit. Et tant mieux, il y a de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près un quart des plus de 45 ans qui écoutent de la musique via un service de streaming audio. Donc on ne peut que se féliciter de cette démocratisation. Mais vous l'avez dit, on est à 10%, donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Grosse marge de progression. Ce qui me faisait sourire en vous écoutant, c'est que d'avoir comme objectif de vieillir l'audience, d'habitude, tous les gens qui viennent à ce micro disent « Nous, on essaie de rajeunir l'audience et vous, venez les vieux, venez écouter en streaming.
» C'est-à-dire qu'on a déjà énormément de jeunes parce qu'évidemment, on s'est développé grâce à l'essor des smartphones, des tablettes, etc. Donc, les jeunes sont plutôt
Et puis, je précise, il y a aussi un format absolument formidable. C'est que, j'imagine que vous le faites vous aussi, c'est qu'il y a l'abonnement familial.
Absolument.
Donc le papa, la maman prend l'abonnement et ça innerve sur 3 ou 4 ou 5 ou 4, je crois que ça s'arrête à 4.
Ça dépend des offres. Comptes. Chez nous, c'est 6.
Mais donc, 6, bravo. Voilà. Mais donc, on peut comme ça écouter de la musique alors qu'on n'a que 10 ans ou 12 ans.
Ouais, et avoir exactement, un compte. Exactement. Et ça, c'est une offre qu'on pousse énormément parce qu'elle permet justement de familiariser tout le monde à l'usage, aussi bien les parents que les enfants. Et c'est bien aussi que les enfants prennent l'habitude d'utiliser un service légal qui permet de rémunérer les artistes et prennent ces habitudes-là, ils vont se faire leur propre playlist. Donc c'est vrai qu'on développe beaucoup d'offres qui permettent à toutes les catégories de population d'utiliser un service comme Spotify.
Alors je parle aux gens qui ne connaissent pas, 25% des Français qui utilisent le streaming, 75% ne l'utilisent pas. Je m'adresse également à eux. Comment ça marche ? Il y a du streaming payant, du streaming gratuit. Les deux sont légaux. Quelle différence avec du streaming gratuit et du piratage ?
Alors voilà, ça c'est très important. Sur une plateforme comme Spotify, vous pouvez tout simplement vous inscrire et vous créer votre compte, c'est très facile et vous pouvez utiliser la version gratuite. C'est juste que vous aurez des spots de publicité entre plusieurs morceaux de musique que vous écoutez et vous avez un petit peu moins de fonctionnalités qu'un que que l'abonnement payant. Vous pouvez faire ce test en gratuit et si vous êtes convaincu, si vous avez envie, vous choisissez l'offre qui vous convient, l'offre étudiante, l'offre solo ou l'offre famille, et vous vous abonnez et comme ça vous avez beaucoup plus de fonctionnalités pour écouter plein de playlists, créer des playlists, écouter offline, etc. Donc il y a une offre gratuite qui permet de se familiariser et de commencer à tester le produit et éventuellement si vous avez envie, vous pouvez transformer en payant. Et ce qui est important de dire, c'est que l'offre gratuite, les revenus de la publicité de l'offre gratuite vont aux ayants droit et les revenus des abonnés de l'offre payante vont aux ayants droit. Donc dans les deux cas, ce sont des formules qui sont rémunératrices pour les ayants droit et donc in fine pour les artistes. Et c'est donc les deux offres sont légales et ça permet de recréer un système vertueux, que le marché de la musique, comme on le dit, retrouve la croissance. Et j'espère que cette croissance continue pour que le marché retrouve le niveau qu'il avait il y a 20 ans.
Et pour vous, question, vous êtes possible que vous ne me répondiez pas. Pour vous, c'est exactement la même chose. Vous prenez la même part, le même pourcentage, que ce soit des revenus via la pub ou des revenus via l'abonnement.
Oui, on reverse indifféremment. On met tous ces revenus dans un gros pot et on reverse indifféremment le même pourcentage aux ayants droit, c'est-à-dire les maisons de disques, les sociétés d'édition, etc.
Donc pour vous, il n'y a pas une méthode qui rapporte plus, que ce soit par abonnement ou par gratuitement, quoi.
Non, pour nous, non. Pour nous, les deux sont importants. C'est-à-dire que la version gratuite, elle permet justement de se familiariser avec le produit, de se familiariser avec l'offre. Donc c'est vraiment un outil de test et d'usage. Et évidemment que les formules par abonnement sont plus intéressantes ensuite pour les ayants droit, parce que ça génère plus de revenus pour le moment. Mais les deux sont les deux piliers du développement du streaming dans le monde et en France.
Vous savez quoi, Antoine Monin, c'est tellement intéressant ce que vous racontez qu'on n'a même pas encore eu le temps ni pensé à passer une seule note de musique. Ça sera juste après ça.
Le directeur du département musique chez Spotify, Antoine Monin, est notre invité. Avec lui, on analyse les chiffres du Snap avec 15 millions de personnes qui écoutent de la musique en streaming. On continue à en parler dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Un quart des Français écoutent de la musique en streaming, ce sont les chiffres du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique qui nous le disent. On continue à en parler avec Antoine Monin, le directeur marketing artiste et label de Spotify France, qui est notre invité, Philippe.
15 millions donc de personnes utilisent un service de streaming en France, c'est le chiffre global. Parmi ces 15 millions, il y a 9,4 millions qui payent, 6 millions qui ne payent pas, alors qu'ils payent déjà pour voir des séries, pour voir du foot. Comment les convaincre de payer également pour la musique, Antoine Monin?
Écoutez, c'est super qu'ils utilisent une offre légale qui soit gratuite, financée par la pub déjà en fait. Donc après, avec l'usage, plus il y a aussi des jeunes hein, parmi ces gens qui utilisent une offre gratuite, qui n'ont pas forcément pour l'instant les moyens, etc. Donc qui continuent à utiliser l'offre gratuite financée par la pub, c'est super. Et c'est plutôt de dire à ceux qui n'y sont pas encore, donc vous avez dit les 75% qui ne sont pas encore, de commencer à tester les différents produits, les différentes formules, de s'inscrire sur Spotify pour tester comment ça marche. Une fois qu'ils ont commencé à goûter, j'ai envie de dire, aux produits gratuits, bon, ils iront à un moment ou à un autre vers le payant.
Et vous savez, le premier frein à l'abonnement, c'est le fait de ne pas pouvoir se désabonner facilement. Est-ce que c'est facile de se désabonner de ces plateformes?
Alors, ça, c'est le grand avantage de toutes les offres de streaming comme Spotify, c'est que c'est sans engagement. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, du jour au lendemain, vous dites j'ai envie de changer de formule, j'ai envie de changer de service, je vais passer à autre chose. Donc c'est sans engagement.
Je me souviens dans les années 90, on les désabonnait de Canal+. Je voulais pas parce que j'ai bossé à Canal+, mais il fallait envoyer 4 courriers recommandés encore à la bonne période de l'année. Si on se plantait, c'était reparti pour un an.
Ah non, là vous vous connectez, que ce soit sur l'appli ou sur le site web, vous dites stop et c'est fini.
Voilà. Et sur Canal, il faut le dire quand même, c'est devenu exactement très souple comme vous le décrivez.
Enfin, C'est plutôt dans l'autre sens. On va plutôt dire vous ouvrez l'appli ou vous ouvrez le service et vous vous inscrivez. Ouais. C'est ça qui va être intéressant.
Ah, c'est toujours très facile de s'inscrire. Ça ne m'avait pas échappé. Qu'est-ce que les utilisateurs écoutent? Est-ce que ce sont les mêmes titres suivant les pays? Qu'est-ce qu'on écoute ici en France? Est-ce qu'on est chauvin ou pas du tout?
Alors, chauvin, on va dire qu'en tout cas, là, on doit vraiment se féliciter du succès de la production française. Et ça, c'est notamment flagrant sur les services de streaming comme Spotify. Le Snap l'a dit, on n'est pas loin de 80% du top 200 de l'année 2019 qui sont des productions françaises. Et donc vraiment, ça, c'est un chiffre incroyable dont on se félicite. C'est-à-dire que le streaming permet vraiment de développer la création française. Et parmi ceux-là, parmi ce top 200, c'est 46 jeunes talents en 2019 qui ont été écoutés et découverts sur des plateformes comme Spotify.
Et ce qui fait d'autant plus plaisir que, contrairement aux radios FM très encadrées par la loi, là, c'est sans aucun quota, c'est juste les gens qui choisissent. Et en premier, les Français ont choisi d'écouter lui.
Céline Dacosta, vous avez reconnu la voix, c'est l'allure.
Bien sûr, c'est
la Johnny façon Hallyday. De penser. Johnny Hallyday, il est en tête du classement des artistes les plus écoutés. Il y a les piliers de la musique française, évidemment, mais il y a également les nouveaux talents, vous l'avez dit.
Laisse-moi te chanter.
C'est pas facile d'enchaîner après va te faire on, mais en tout cas c'est Angèle qu'on a reconnu. Quand on utilise un site de streaming, c'est également pour s'informer des nouveautés qui viennent tout juste de sortir, comme on pourrait le faire de la radio.
Absolument, c'est justement un des grands avantages des services de streaming comme Spotify, c'est que soit vous choisissez vous-même ce que vous voulez écouter, soit vous allez sur les playlists qui vous permettent de vous informer de ce qui sort, des nouveautés selon les genres que vous aimez. Et je trouve que c'est intéressant, vous avez passé deux exemples très différents, que ce soit Johnny ou Angèle, qui sont représentatifs, un, du poids de la production française et des écoutes de musique française sur Spotify, et deuxièmement justement de la diversité des genres musicaux, que ce soit rock, variété française traditionnelle, pop plus jeune comme Angèle, où on n'a pas encore cité Aya Nakamura, qui est un des grands exemples de succès en France mais aussi à l'export.
Ah mais oui,
ouais, parce que l'autre,
vous avez un truc à nous dire sur elle? Alors, on l'écoute pour qui ne connaît pas.
Allez, allons.
Aya Nakamura, avec ses paroles françaises, qui est un phénomène aux Pays-Bas.
Absolument.
Comment ça s'explique, ça?
Alors, c'est un autre truc dont on doit vraiment se féliciter. Alors là, Spotify, leader mondial, est vraiment un moteur énorme de l'export de musique française dans le monde. Là, c'est encore des chiffres du SNEP. 55 artistes produits en France en 2019 ont eu des récompenses pour leur vente à l'export. C'est le double d'il y a 4 ans et la moitié d'entre eux n'avaient jamais eu ces récompenses avant. Donc de plus en plus d'artistes comme Aya Nakamura, qui a été numéro 1 aux Pays-Bas grâce à Spotify, mais qui a aussi bien marché en Allemagne, qui a aussi bien marché en Angleterre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit se féliciter. Le streaming comme Spotify permet de lever les barrières et économiques et géographiques. La musique voyage beaucoup plus vite. Les jeunes artistes, les jeunes talents connaissent le succès beaucoup plus vite et leur musique voyage partout dans le monde.
Vous parlez du succès commercial, économique, mais pas forcément pour vous. Ça rapporte beaucoup aux ayants droit, c'est-à-dire les droits d'auteur, les chanteurs, les compositeurs, les musiciens. 124 millions d'abonnés payants dans le monde et pourtant Spotify perd de l'argent. Comment ça se fait alors que même votre chiffre d'affaires, j'ai les chiffres, qui a bondi de 28% à 6,7 milliards d'euros et encore une perte de 186 millions d'euros. Comment ça se fait? Vous donnez trop aux ayants droit? On vous donne pas assez quand on s'abonne?
C'est pas seulement ça. C'est aussi qu'on investit. La croissance. Vous l'avez dit, en France, l'exemple est intéressant. À peu près 10% d'abonnés à une offre payante, un peu moins de 25% des gens qui utilisent un service, on doit investir sur la croissance. On doit recruter des nouveaux utilisateurs. Plus on va faire croître ce marché, plus on va reverser d'argent aux ayants droit et aux artistes. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est l'investissement et la croissance.
Pour qu'on comprenne bien investir, nous qui ne sommes pas ici des investisseurs, on investit pour trouver un nouvel abonné, ça se paye.
Il faut faire de la publicité, du marketing. Il faut aussi investir sur le service, c'est-à-dire il y a des innovations régulièrement sur l'application Spotify pour partager la musique sur les réseaux sociaux, pour créer ses propres playlists, pour avoir plus de fonctionnalités. Donc on investit pour les utilisateurs, on investit pour les artistes aussi. On a créé une plateforme qui permet aux artistes de gérer eux-mêmes leur propre carrière, de voir leur audience, de voir où est-ce qu'ils sont écoutés dans le monde. Donc on travaille beaucoup avec les artistes, les ayants droit. Donc on doit investir sur tous ces domaines-là pour permettre aux services de se développer.
D'où les podcasts, par exemple, avec Brut, dont nous parlions.
Exactement.
Alors, il y a les podcasts, il y a également les musiques d'ambiance. Pourquoi les musiques d'ambiance? Car, si j'ai bien compris, ça ne coûte rien et ça évite de donner de l'argent aux majors.
Non, ce n'est pas exactement ça. C'est,
ah bon?
Non. Il y a aussi beaucoup, et par exemple, on voit le succès des applications de méditation, par exemple. Donc, il y a tout ce mouvement du bien-être et du développement personnel. Et il y a des playlists qui vont bien avec ça. C'est des écoutes qui sont extrêmement minoritaires et c'est des catalogues qui sont constitués un peu différemment avec des ayants droit qui sont constitués différemment, mais c'est pas vraiment une logique économique.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
C'est-à-dire que non, mais c'est une écoute qui est très très mineure, donc les musiques d'ambiance comme
Justement, peut-être vous avez intérêt à les développer. car justement, elles ne font que vous rapporter sans rien vous coûter, un petit peu comme M6 rentabilisait la petite maison dans la prairie.
Non, comme vous savez, en fait, on est un service à la demande. Donc, ouais. Nous, c'est les utilisateurs qui choisissent. Donc, voilà, s'ils ont envie d'écouter Aya Nakamura, Angèle, Luz and the Yakuza ou Johnny Hallyday, c'est ça qu'ils vont écouter. Donc, nous, on ne va pas pousser telle ou telle musique. Nous, on va pousser les artistes qui plaisent aux auditeurs, aux utilisateurs de Spotify quand ils sont sur la plateforme.
D'un mot pour finir, on parle beaucoup du streaming et en même temps, on ne cesse de voir des articles sur la fin du CD, ça tout le monde l'a constaté, et sur le retour du vinyle. Est-ce que c'est un vrai phénomène qui se traduit dans les chiffres ou est-ce que c'est juste une belle tendance chez les bobos qui fait des beaux sujets parce que c'est trop beau, les belles pochettes, les vinyles, le côté vintage? Moi, j'adore voir ces reportages. Mais est-ce que c'est à ce point, est-ce que ça va prendre la place, que ça va vous piquer votre place à nouveau?
Non, je pense que c'est très complémentaire. Et ça, c'est aussi un sujet important, c'est que le streaming fait partie de l'écosystème global de la musique. On écoute plus de musique en streaming, on est à un ou deux clics de pouvoir acheter un billet de concert, on est à un ou deux clics de pouvoir commander un vinyle ou de pouvoir commander du merchandising. Donc les gens qui achètent des vinyles sont la plupart du temps des gens qui sont aussi des utilisateurs de services de streaming comme Spotify, qui vont beaucoup à des concerts. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va écouter de musique, plus on va écouter de nouveaux artistes, plus on va vouloir soit aller à des concerts, soit acheter le vinyle.
J'en reviens, quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce cercle vertueux ne fonctionnerait pas avec les CD?
Ah, je pense qu'il y a probablement un côté affectif avec le vinyle qui est différent du produit du CD. Le CD c'était la version analogique digitale du son, c'était pratique. Aujourd'hui, ce côté pratique, on l'a avec les services de streaming audio. Donc le vinyle, c'est plutôt l'objet.
Et l'inconscient en parle pour vous, Antoine Monin, parce que vous avez parlé du CD à l'imparfait et du vinyle au présent. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur marketing, artiste et label de Spotify France. Merci d'avoir été avec nous en direct et on peut vous entendre en podcast.
Merci.
Mike Lesguy, le présentateur de Égal M6, est notre prochain invité. Avec lui, on va célébrer le 1000e anniversaire de l'émission. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, on accueille Mike Lesguy.
Bonjour Mike Lesguy.
Bonjour Philippe.
Ça fait presque 30 ans, 29 ans, que vous vulgarisez la science à la télévision. Vous avez créé en 91 l'émission E égale M6, que vous présentez toujours. C'est la plus grande longévité pour une émission scientifique à la télé. Et là, vous arrivez à la 1000e, et vous qui aimez les chiffres, ça donne quoi la 1000e en chiffres?
Alors, vu qu'il y a un peu plus, il y a eu 4 reportages, puis 3 reportages par émission, j'ai compté, on est à peu près 3800 reportages, à raison de 2 spécialistes, 2 scientifiques invités par reportage, ça fait plus de 7000 scientifiques spécialistes.
C'est dingue.
Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires où E égale M6 n'est un jour ou un autre en France fourré son nez.
Et si on veut regarder l'intégrale de E égale M6 en CD, qui n'existe pas, mais si le coffret existait, il faudrait 58 jours pour les regarder à raison de 8 heures par jour. Donc on est pas au bout. Alors pour la 1000e, vous avez choisi de faire une spéciale Tour Eiffel. Ça sera diffusé dimanche à l'horaire habituel, la durée habituelle. Pourquoi ce choix de la Tour Eiffel?
On cherchait un monument emblématique et qui symbolise l'esprit scientifique et d'ouverture et d'innovation de la France. Et on s'est dit, c'est la Tour Eiffel. Parce que quand Gustave Eiffel, en 1889, décide de construire, de projeter, d'inventer cette Tour Eiffel, voilà, il veut poser un monument pour l'avenir. Mais c'est une première mondiale, une première tour en fer, la tour de 1000 pieds, de 300 mètres de haut. Le monde entier regarde la France et se dit waouh, c'est une merveille technique et scientifique, et ça l'est toujours aujourd'hui.
Oui, image très spectaculaire, on a fabriqué un petit florilège sonore de ce que les gens vont pouvoir découvrir dimanche.
Savez-vous que cette tour de 324 mètres de haut, antenne comprise, a été conçue pour être élastique?
Ça veut dire que le sommet de la tour Eiffel, il se déplaçait
des allées et des venues, de gauche et de droite, en fonction des rafales.
Et à votre avis, quelle est sa véritable couleur?
En réalité, elle a été peinte de 3 couleurs différentes.
Comment fonctionne cet ascenseur toujours en service depuis sa création? Enfin, quel est le secret de son éclairage féerique? Pour fêter les 29 ans de E égale M6, une surprise de taille attend Mac.
Ce monument incroyable recèle bien des secrets, beaucoup de science. C'est ce que nous allons découvrir dans E égale M6.
Alors, je ne vais pas dévoiler la surprise, mais quand même le mot secret, est-ce que ce n'est pas un peu galvaudé? Parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on savait déjà.
Oui, mais il y a des choses qu'il est bon toujours de réexpliquer.
Oui, vous mais ce n'est pas des secrets.
Une colle, ah, ce n'est pas des secrets. Non, ouais. Effectivement, voilà, il n'y a pas de pièces cachées, il voilà, n'y a pas de fantômes dans la Tour Eiffel. Mais par exemple, si je vous dis, en quoi est faite la Tour Eiffel? Est-ce qu'elle est faite en acier, en fonte? Qu'est-ce que vous allez me répondre?
Moi, c'est trop facile parce que j'ai vu l'émission, donc je sais qu'elle est en fer. Et je sais qu'elle est de 3 couleurs différentes, ce que j'ignorais complètement.
Exactement. Elle est en fer, qui est un matériau, c'est du fer pur, ce qu'on appelle du fer pulé, ce qui est un matériau qui est quasi plus employé aujourd'hui parce que c'est très compliqué à obtenir, à tel point que toutes les pièces qu'on a rajoutées par la suite qui sont en acier s'abîment et rouillent, alors que les pièces originelles qui sont en fer pudelé, c'est-à-dire en fer pur, ne rouillent pas. Voilà le genre de petit secret qu'on apprend sur la Tour Eiffel.
Vous avez fait des expériences, vous êtes monté sur les poutrelles au sommet, vous étiez tétanisé par le vertige, et du coup il arrive hop, un sujet sur le vertige, mais blague à part, vous en avez rajouté, vous étiez vraiment à deux doigts de tourner de l'œil là-haut.
Oh non, mais c'est extrêmement vertigineux. Je pense que c'est un des endroits les plus vertigineux. C'est l'escalier que plus personne n'emprunte entre le deuxième et le troisième étage. Vous êtes environné de poutrelles, vous avez du vide dessus, dessous. Et ce que je dis d'ailleurs, c'est que moi j'ai l'habitude de faire de la montagne, j'ai l'habitude des précipices, etc. La Tour Eiffel, c'est beaucoup plus impressionnant parce que le vide n'est pas à côté de vous, il vous environne. Et c'est très impressionnant.
Alors, 1000 émissions, c'est quoi vos meilleurs, en fait, ça je m'en fiche un petit peu, c'est quoi vos pires souvenirs? Racontez-nous le cornichon électrisé.
Oh, le cornichon électrisé, non, c'est un bon souvenir. En fait, je vais vous dire, j'ai que des bons souvenirs. Voilà, vous prenez des électrodes, le cornichon, c'est une solution de saumure, vous allez la ioniser une expérience à ne surtout pas faire chez soi, je le précise. Voilà, vous prenez des fils électriques, vous les dénudez, vous les mettez aux deux extrémités du cornichon. Le cornichon va briller pendant quelques instants, voilà. Après, ça va faire un court-circuit et ça va faire disjoncter les plombs du bureau. Une fois, deux fois, après, on a arrêté.
Non, mais dis ce que vous avez fait disjoncter tout l'immeuble.
Oui, bah oui, oui,
voilà.
Effectivement.
Bon, mais ça, c'était un bon souvenir. Ça donne une idée de la mentalité de notre invité. Vous restez avec nous.
Égal M6, diffusé tous les dimanches à 20h15. Fête ce dimanche, le 1er mars, sa 1000e émission. Toujours présentée par Mac Lesguy, qui est notre invité. A tout de suite sur Égal Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Égal M6 fête sa 1000e, une émission qui sera diffusée dimanche soir comme tous les dimanches pour Égal M6. Elle est présentée toujours par Mac Lesguy, qui est notre invité ce matin dans Culture Média, Philippe.
Ouais, c'est la 1000e, on parlait de vos aventures et de vos mésaventures. Vous avez eu la chance de voler deux fois en zéro gravité. Racontez comment ça s'est passé la première fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues à l'antenne.
Non, effectivement, la première fois, on volait dans une caravelle, c'était en 92, et donc on fait, vous savez, des bonds de 20 secondes en zéro gravité, et évidemment, certaines personnes ont le mal de mer. Et ce jour-là, j'étais accompagné de mon associé qui était à côté de la caméra, et pendant que je faisais mes plateaux et mes lancements de Galaxy 6, tout d'un coup, je le vois devenir tout vert, puis tout jaune, et tout d'un coup, il vomit. Il vomit en apesanteur. Le vomi sort de sa bouche et se regroupe en boule comme le whisky du Capitaine Haddock dans Tintin, dans le faisant la marché sur la lune. Et je vois cette espèce de boule de vomi qui arrive vers moi. À ce moment-là, c'est la fin de la parabole. Plouf, tout s'écrase. Mince, on nettoie, c'est un bon souvenir.
Et pourquoi c'était pas à l'antenne?
C'est pas à l'antenne parce que malheureusement, le cadreur était fixé sur moi et il a pas eu le présence d'esprit de détourner sa caméra.
Il faut le refaire. C'est une émission vivante, E égale M6. Il y a une polémique dimanche. Je vous explique. Enfin, depuis dimanche. Dimanche, j'ai raconté pouvait faire pousser des légumes en toute saison, c'est là où c'est important, sans impact négatif sur l'environnement. Que n'aviez-vous pas dit? Et Twitter se déchaîne.
Et Twitter se déchaîne, parce qu'il y a deux solutions en voyant ce reportage, deux réactions possibles. Vous dites, tiens, on ne savait pas. Effectivement, voilà un exemple, c'est une culture de concombre qui utilise la chaleur perdue d'une centrale électrique pour chauffer des serres, et donc sans impact, sans émission de CO2, on peut produire des concombres, des tomates, toute saison. C'est une bonne nouvelle. Ou alors vous pouvez réagir en disant, comment? Mais j'ai toujours ouï dire que la culture de légumes à contre-saison c'était mauvais, donc ce reportage par nature est mauvais, voilà, c'est une honte. Le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, a fait un tweet en disant, mais c'est scandaleux de montrer ce genre de pratique. Et je suis finalement content de ce genre de polémique parce que ça montre que E égale M6 est là pour décrypter des faits scientifiques, des techniques, quitte à bousculer des idées reçues. Et dans beaucoup de domaines, nous en avons. Et c'est ma grande fierté, je vous le pense, c'est une des missions de E égale M6, de faire de la science, de la technique, sans a priori, sans idées reçues.
Mais vous aviez dit que les concombres avaient le même goût que des concombres de pleine terre ou pas du tout? Parce que c'est ça le problème.
Alors en l'occurrence, on n'a pas dit sur le concombre, mais je peux vous le dire parce que le reportage aurait été très long effectivement. C'est qu'il n'y a quasiment pas de différence. Je vous mets au défi de faire une différence entre les concombres cultivés l'été. Alors, en pleine terre, jamais. Le concombre pousse sous serre, été, comme hiver.
Ça, je ne savais pas.
Voilà.
Mais en tout cas, sur les tomates.
Sinon, il serait jaune d'un côté et vert de l'autre. Donc, il faut arrêter avec les légumes de plein champ, c'est forcément meilleur. Les tomates, c'est meilleur l'été que meilleur l'hiver. Ça, c'est clair, parce qu'il y a plus de soleil. Que vous soyez sous terre ou pleine terre, ça n'a aucune importance. La différence, en fait, est minime et dépend plus de la variété que de l'ensoleillement. Mais ça, on ne le dit pas assez.
Les audiences, ça marche bien, j'imagine.
Oui, on fait une bonne année. On est quand même à 2 900 000 spectateurs en moyenne. Voilà, je vous montre que nous avons un public fidèle et familial, enfants et les parents.
Votre meilleure audience depuis 13 ans, ce qui est absolument dingue. Vous visez quel public? Les enfants, les parents avec enfants? Parce que toutes les expériences quasiment sont faites soit par vous, soit par des bambins.
Alors, ce sont les parents avec les enfants, effectivement. On pense toujours et je pense que d'ailleurs les téléspectateurs tout nous le disent, on est l'émission qu'on va regarder en famille avant que les enfants n'aillent se coucher. Notre but, c'est que les enfants apprennent et les parents aussi.
D'où aussi la déclinaison E égale M6 Family sur Gulli.
Exactement. Alors là, on rajoute des expériences, encore plus d'expériences que j'ai fait en plateau avec Gaëlle Marie, ma pétillante co-animatrice. Et ce sont, pour la plupart du temps, des expériences extrêmement simples qu'on peut refaire chez soi avec quelques instruments, du matériel de cuisine. Voilà. On fait des expériences de physique, de chimie, de biologie.
Mais pas foutre du 220 dans un concombre.
Non.
Vous êtes ingénieur agronome de formation. Oui. Je refaisais la blague de Coluche, ingénieur à Grenoble, le lapsus. Dans une interview récente de vous, c'était en décembre 2019, vous donniez vos références et vous avez dit « Le manuel des castors juniors a été ma grande lecture pendant 2 ans ».
Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça, souvent, je repense. Vous savez, il y a une expérience fantastique. Vous faites un pliage, vous faites une sorte de petite casserole avec, dans laquelle vous mettez de l'eau en papier. Ouais. Voilà, vous mettez ça sur une bougie et vous voyez l'eau qui va se mettre à bouillir alors que le papier ne brûle pas. Ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la science. Le manuel Castor Junior, c'est un bouquin absolument génial. Voilà, je ne sais pas s'il est toujours édité, mais c'était mon livre de chevet. Voilà, après, il y a eu des expériences de Tom Tite, d'autres expériences. Et je m'amusais à faire les unes après les autres toutes ces expériences.
Vous aimez vous mettre au service d'autres causes, Mac Lesguy ?
Je défends une cause qui m'intéresse, qui me passionne, c'est la rationalité et la rigueur scientifique. Beaucoup de domaines, malheureusement, dans lesquels la France fait des pas de côté, ce que je trouve très dommage.
Pas de côté de ma part, vous allez me dire c'est scientifique, autre cause défendue par Mac Lesguy.
Bonjour, saviez-vous que pour une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut prendre soin de la zone qui se trouve entre les dents et les gencives ? Bertrand, expliquez-nous.
En effet, Max, c'est le sillon gingival où se logent les bactéries responsables de la majorité des problèmes bucco-dentaires.
Que faut-il faire ?
Utiliser des gencives Purify.
C'est une pub pour dentifrice, c'était bien payé ou très bien payé ?
C'est bien payé, effectivement. Et je suis très content de faire la promotion
ça
de ce dentifrice
question.
Et de cette brosse à dents électrique, parce que je pense que le brossage électrique apporte vraiment quelque chose de plus par rapport au brossage manuel.
Ça va être ma question. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'endommager votre crédibilité scientifique en faisant de la pub ?
Vous savez, il y a pas mal de pubs parce qu'on m'en propose régulièrement. Voilà, j'ai accepté celle-là parce que je trouvais qu'il y avait un vrai plus, effectivement, à passer à cette technique. Et c'était il y a 7 ans. J'aurais pas imaginé à l'époque, on était parti pour 3 mois.
Ouais.
Voilà, depuis 7 ans, une grande marque de dentifrice me dit bon, allez, on refait encore une publicité cette année. Voilà, j'en ai refusé beaucoup d'autres parce que je trouvais que la plus-value technique, scientifique des produits qu'on me proposait n'y était pas. Après, je vous rappelle que M6 est une chaîne qui est, comme vous le savez, financée intégralement par la publicité, pas par la redevance que paient les téléspectateurs.
Comme Europe 1.
Voilà, et ça fait partie du jeu.
Dernière petite question, est-ce que vous avez demandé à l'autorisation M6 de faire cette pub ?
Ah, bien évidemment, ça se fait en concertation avec M6.
Merci beaucoup Mac Lesguy d'avoir été
Merci
avec
à
nous.
Vous.
Vous reconnaissez le générique ?
Eh oui, qui n'a pas changé depuis 29 ans.
La millième de E égale M6, ça sera dimanche soir. Vous allez fêter les 30 ans en 2021 ?
Ah oui, février, voilà. On réfléchit déjà. On va essayer de marquer le coup, effectivement, parce que 30 ans, ça se fête.
Alors c'est quoi ? On ne sait pas si on sera là, mais si on est là, on vous lance l'invitation.
Ah bah, j'espère être là aussi. Merci Philippe.
Merci à vous.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média. On retrouve le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup,
Rien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Stéphane.
Vous aviez entamé cette semaine avec une très très bonne idée qui était le mot du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un mot à nous proposer ?
Judy.
Le retour du Judy. Judy Ferrier.
C'est le film avec René Zwiller.
Comment ?
René Zwiller.
Zellweger. Pourquoi vous dites Zwiller ?
Vous savez qu'elle a eu l'Oscar ?
Oui, ça va, je regarde la télé. Vous avez regardé les Oscars ?
Non, j'ai regardé quelques discours.
Donc, vous avez regardé les Oscars. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple ?
René Zwiller.
C'est bizarre d'ailleurs d'appeler sa fille Renée.
Ah bon ?
Bah si. Vous appelleriez votre fille Renée ?
Ma grand-mère s'appelait Renée.
Renée. Et votre grand-père s'appelait Jacqueline ?
Ah non, pardon, c'est mon grand-père qui s'appelait Renée.
Et votre grand-mère était trans ?
Non, parce qu'elle s'appelait Marcel. Il y a un truc marrant, le réalisateur de Judy s'appelle Conrad Robert Falk.
Il est mort, Robert Conrad.
Non, mais c'est Falk qui est mort.
Non, c'est Conrad.
Je confonds avec le comédien.
Vous savez qu'il faut être très éveillé avec vous, hein, parce que le nom de votre grand-mère a le nom de votre grand-père, votre grand-père était trans.
Donc Robert Conrad Falk.
Et Peter Falk aussi.
Mais justement, c'est ça qui est marrant.
Mais alors, on sait plus. Peter Falk qui était Columbo qui est mort, qui a réalisé un film avec René Zellweger. René, qui est un prénom d'homme qui a le même prénom que votre grand-mère.
Mais non, c'est Rupert Gould.
Rupert
Gould qui a réalisé Judy.
Ok, il y a des naissances aujourd'hui. Fernand Contandin.
Content de vous d'avoir sorti ça.
Vous allez être content de ce que je vais vous dire parce que vous allez apprendre quelque chose. Si on prend Fernand et qu'on prend la fin de Contandin, ça ferait Fernandin.
Fernandel.
Des souvenirs de Fernandel ?
Non, j'ai un souvenir personnel de Bourville.
Vous avez rencontré Bourville ?
Je l'ai vu un jour dans une voiture.
Pas mal, donc vous êtes un proche de Bourville.
Lui ne m'a pas vu, il gardait son profil droit pour ne pas me déranger.
Ça, c'est tout Bourville, ça.
Vous avez pensé un jour vous, changer de nom?
Mon grand-père s'appelait Croc, K-R-O-C-H, Croc, Emmerich. Je me suis dit, tiens, je vais m'appeler Stéphane Croc, comme une interjection. Croc, crac, cric. Pour finir, j'ai gardé De Gros. Pascal Brunner aussi, vous vous souvenez de Pascal Brunner?
Pascal Bruckner.
Brunner, un animateur.
T'es pas un SS? Non, c'est à lui.
Non,
Brunner.
Ça va lui faire plaisir. Il était un peu cucu, mais il n'était pas SS. Il y a un mort célèbre, Victor Hugo.
Victor Hugo.
C'est pas l'avenue, hein.
C'est le seul écrivain de son vivant.
Et qui s'appelait Victor Hugo.
Qui a eu une avenue. Victor Hugo habitait avenue Victor Hugo.
Alors que Churchill n'a jamais habité avenue Churchill.
À savoir que quand on est mort, on sait qu'une avenue porte son nom. À voir.
À voir demain, parce qu'il est tard là déjà. Je vous propose de nous retrouver demain, Gilles, pour le jeudi. Okay. Jeudi 27.
Ok.
C'était les Rats d'auteur avec Stéphane De Groot et Jules Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur Europe 1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue avant la venue de Marguerite Lefebvre pour le rappel des titres. On va parler culture, nous, ensuite, avec Lucien Jean-Baptiste pour la série télé adaptée de son film Il a déjà tes yeux, série qui passe en ce moment sur France 2. Et puis dans les indispensables, le meilleur des sorties ciné de la semaine. Nous sommes mercredi, ce sera avec Mathieu Charrier. Et puis une pièce de théâtre vue par Thierry Géfrotin, Le Muguet de Noël. Là, vous vous dites, le Muguet, c'est pas Noël. Et je vous dis, bah super, on a des auditeurs qui suivent.